international. Il est 13h10 en temps universel. C'est l'heure du journal d'Haïti et des Amériques avec vous, Mickaël Ponge. Bonjour.
Bonjour Fanny, merci. Il est 8h10 à Cali, en Colombie. La gauche aux portes du pouvoir en Colombie, un an après le grand mouvement de contestation sociale qui a secoué le pays. C'est notre dossier du jour. Trois jours après la fusillade dans une école d'Uvalde au Texas, la NRA, le lobby des armes, réunit ses ouailles. On en parle avant de vous retrouver, Odana Jiali, pour le journal de la première, avec à la une ces crues historiques en Guyane.
Oui, notamment au niveau du Haut-Maroni, à la frontière avec le Suriname. Le maire de Grand Sentier réclame plus d'aide pour sa commune. Et puis dans le même temps, les habitants de Fort-de-France en Martinique subissent de plus en plus de coupures d'eau. Des témoignages à suivre dans le journal.
Rendez-vous dans une quinzaine de minutes et bienvenue à tous.
RFI, la radio del mundo.
Et si la Colombie basculait? À deux jours du premier tour de la présidentielle, le candidat de la gauche, Gustavo Petro, fait toujours la course en tête dans les sondages. De quoi surprendre dans un pays qui a toujours été gouverné à droite. Le programme progressiste de l'ancien guérillero, ancien maire de Bogota, séduit tous ceux qui aspirent au changement, et notamment les jeunes, eux, qui se sont largement mobilisés au printemps l'an dernier lors d'un vaste mouvement de grève, le Paro, pour dénoncer la corruption et les inégalités. Un mouvement durement réprimé dont l'épicentre était Cali, ville du sud-ouest où s'est rendue Stéphanie Schuller.
Regarde ici, ça c'est un impact de balle. On en voit encore partout, même si la police a essayé de les camoufler après coup. Les balles ont tout traversé. Les policiers nous visaient depuis le collège là-bas, de l'autre côté du rond-point. Ils tiraient avec des fusils de longue portée équipés de laser.
Le rond-point porte le nom de Glorieta. Il mène à Siloé, l'un des quartiers pauvres de Cali. Celle qui nous accompagne vit ici. L'an dernier, elle a participé au Paro. Pour des raisons de sécurité, elle s'exprime sous couvert d'anonymat. La jeune femme pointe du doigt une boulangerie.
Ici, on avait installé un poste de soins. On avait des brancards pour y amener les manifestants blessés. Par terre, là, dans la boulangerie, il y avait des infirmières et des médecins volontaires. On a essayé de les cacher ici pour que la police n'attaque pas les médecins qui avaient décidé de nous apporter leur soutien. Mais les policiers ont fini par s'infiltrer dans les ambulances. Ils se sont fait passer pour des ambulanciers et de cette façon, plein de jeunes blessés se sont fait arrêter par les policiers.
Des centaines de manifestants ont été blessés entre avril et juin 2021 lors du soulèvement social. Rien qu'à Siloé, 12 personnes ont été tuées. La plupart par des policiers en uniforme, mais il y a eu aussi d'autres acteurs armés qui ont attaqué les protestataires.
Mon frère distribuait avec d'autres amis de la nourriture aux protestataires. C'était le 7 mai 2021.
Luis Alberto Rodriguez, frère aîné de Dario Rodriguez.
Il était dans cette activité et c'était un point de concentration.
Il était sur un point de rassemblement des manifestants pas loin d'ici. Les jours précédents, plusieurs de ces points de rassemblement à Cali avaient déjà été attaqués par des individus non identifiés. Ce soir-là, mon frère se trouvait dans un endroit qui s'appelle La Luna. Un homme est arrivé à moto et il a ouvert le feu. Selon des témoins, il était accompagné de 3 autres tireurs. 4 personnes ont été blessées, mon frère et 3 autres jeunes. À l'hôpital, le premier diagnostic a été que Dario avait été touché à la tête par une balle de 9 mm. Son pronostic vital était engagé.
Après plusieurs opérations et 17 jours dans le coma, Dario s'est réveillé. Il garde de lourdes séquelles cognitives.
Mon Dieu, merci, il est vivant, il est conscient. Il essaye de vivre une vie normale, même si sa vie ne sera plus jamais la même. En ce qui concerne l'enquête, il se passe ce qui se passe toujours en Colombie. Elle n'avance pas. Un mois, jour pour jour après l'attaque sur mon frère et ses amis, un homme à moto est arrivé sur le même point de rassemblement et s'est mis à tirer. Il a tué 3 manifestants. Les protestataires l'ont lynché. Il s'est avéré que cet homme était un ex-membre de l'armée et à ce moment-là, membre du bureau du procureur. Il était donc un employé de l'État. Si on ne change pas de gouvernement, justice ne sera jamais rendue.
Mon nom est Arnie, je suis avocate de l'équipe de Bouesso, de Tribunal.
Face à l'absence de justice, les habitants du quartier de Siloé organisent depuis le début du mois de mai ce qui a été baptisé « tribunal populaire ». Ils sont soutenus par plusieurs organisations de défense des droits de l'homme, dont fait partie l'Allemand Gabriel Engelbart.
Nous voulons démontrer qu'il s'agissait dans ce quartier d'une opération systématique de la police et de l'armée contre la population civile pendant la grève. Cela ne peut pas rester sans réponse. Il y avait des assassinats ciblés, des arrestations arbitraires, du paramilitarisme urbain, c'est-à-dire des personnes en civil qui tiraient sur la population. Il y a eu des cas de disparition forcée. Des gens ont disparu et on les a retrouvés deux jours plus tard, morts. L'idée est donc de documenter la systématisation de ces crimes contre les droits de l'homme, des crimes commis par l'État contre la population civile. 12 magistrats internationaux soutiennent ce tribunal populaire. Nous voulons vraiment mener un procès. Nous allons accueillir les faits, enquêter et ensuite présenter tous les cas aux magistrats internationaux afin d'arriver à un jugement contre l'État. Cela nous servira pour réclamer des autorités colombiennes de mener de vrais procès et de dédommager les victimes de ce quartier.
À quelques jours du scrutin présidentiel, la candidate de gauche à la vice-présidence, Francia Márquez, est à Siloé. Dans une petite salle communautaire bondée, la militante afro-colombienne et colistière de Gustavo Petro dit partager la douleur du quartier après la sanglante répression de l'an dernier.
La violencia en esta ciudad se expresa todos los días.
Dans cette localité, la violence s'exprime tous les jours. Et pourquoi ? Parce que ces citoyens et citoyennes sont considérés comme des moins que rien. Vous ne comptez pas pour la société, vous ne comptez pas pour le gouvernement national. Quand un jeune noir, un jeune paysan, une jeune métisse pauvre meurt dans ce bidonville, cela n'intéresse personne. C'est pourquoi quand la contestation sociale a explosé l'année dernière, ils sont venus tirer sur les gens. Ils ont tué la jeunesse avec les balles de la patrie.
Non loin du rond-point de la Glorieta, la jeune militante de Siloé nous apprend que de très nombreux jeunes du quartier se sont inscrits pour la première fois sur les listes électorales. Et ce n'est pas tout.
Nous, les jeunes, nous nous sommes inscrits pour être assesseurs dans les bureaux de vote parce que nous voulons empêcher qu'on nous vole des votes.
C'est l'anniversaire de Juan Manuel qui fête ses 31 ans. L'an dernier, ce jeune homme faisait partie de ceux qui tenaient les barricades à Siloé.
Après un tel soulèvement, des entreprises privées sont venues et nous ont proposé un tas de choses. Des emplois, des études. Leur but était de calmer la situation et d'empêcher les jeunes à continuer de traîner dans la rue. J'en ai profité pour étudier les sciences politiques. J'ai appris beaucoup de choses sur la politique colombienne, sur la corruption. Cette année, je vais voter pour la première fois de ma vie et je vais voter pour Petro. Mais si la droite devait nous voler l'élection, comme elle l'a toujours fait, nous allons redescendre dans la rue et révolutionner le pays. C'est ça ce qui va se passer.
Stéphanie Schuller et Damien Fellows, Cali, RFI.
Un premier tour de cette présidentielle colombienne, donc dimanche avec un possible second tour, le 19 juin à Bogota. Il est 8h19.
RFI.
La même heure à Houston, aux États-Unis, la ville texane, où s'ouvre ce matin la convention annuelle de la NRA, puissant lobby des armes à feu. Bonjour Thomas Harms.
Bonjour.
Correspondant de RFI sur place, un rendez-vous trois jours seulement après la tuerie qui s'est déroulée dans une école à quelques 400 km de là, à Uvalde. Pas question d'annuler la grand-messe, Thomas, pas plus que la venue de Donald Trump qui doit s'exprimer ce matin.
Alors oui, dès le lendemain de la tuerie, l'ancien président a refusé d'annuler son intervention. D'autres personnalités républicaines sont également attendues, comme le sénateur Ted Cruz ou le procureur général Ken Paxton, adoubé par Donald Trump. Par contre, dans la nuit, le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a finalement choisi de retourner à Uvalde. Il sera avec la NRA, mais par le biais d'une vidéo seulement. Il essuyait de nombreuses critiques après avoir parlé du besoin d'union du Texas après la tragédie. La National Rifle Association attend 50 000 membres et tous les fabricants d'armes à feu tous sauf l'entreprise Daniel Defense, fabricant de l'arme utilisée par le tireur Salvador Romas. Leur stand sur près de 6 hectares d'armes et de matériel, comme la NRA en fait la publicité, sera vide. Mais ce congrès a aussi généré un grand mouvement de protestation. De nombreuses organisations appellent à un rassemblement en face de la grand-messe du NRA. Et parmi les manifestants, il y aura le maire de Houston, mais aussi Beto O'Rourke, qui avait interrompu la conférence de presse du gouverneur du Texas mercredi, l'accusant de n'avoir rien fait depuis la dernière attaque dans une école au Texas.
On en parlait hier justement. Thomas Arms en ligne de Houston, merci. Au moment où Uvalde, l'émotion toujours extrêmement vive parmi les familles des 21 victimes n'empêche pas la polémique. La police est sous le feu des critiques, accusée d'avoir mis trop de temps à intervenir lors de la tuerie mardi. Sur place, David Thompson.
En conférence de presse devant l'école primaire de Uvalde, le shérif a bien du mal à livrer une version cohérente de son intervention pendant la tuerie. Pourquoi ces agents ont-ils attendu près d'une heure pour rentrer dans l'école primaire, lui demandent les journalistes. On veut vous répondre, mais on reviendra vers vous plus tard, esquive le shérif, visiblement embarrassé. Dès les premières minutes de la tuerie, de nombreux parents sont arrivés sur les lieux avec leurs propres armes à feu et la ferme intention d'aller sauver leur enfant eux-mêmes, quitte à confronter le tireur, ulcéré d'attendre que la police intervienne. C'est le cas de cette maman de 30 ans, arrivée devant l'école avec son revolver, mais que la police a empêché de rentrer. Sa fille a finalement été sauvée, mais la maman ne comprend pas que la police n'ait pas agi plus tôt.
Je suis en colère que personne n'ait bougé avant, même si je comprends que la police a ses propres règles d'intervention. Ils avaient peut-être peur pour eux-mêmes, peur que les familles aillent à l'intérieur, mais il y avait tellement de policiers, tellement d'armes et de fusils d'assaut. Ils auraient dû bouger, ça nous aurait permis de sauver plus d'enfants.
Deux policiers ont été blessés par le tireur en essayant de le stopper, mais plusieurs vidéos montrent ensuite des badauds suppliant les forces de l'ordre d'intervenir, alors qu'à l'intérieur, le tireur était en train de tuer 19 enfants et 2 enseignants. David Thompson, Uvalde au Texas, RFI.
Et bonjour à vous Christophe Paget.
Bonjour.
Ces critiques de la police, hein, elles sont aussi à la une des quotidiens aux États-Unis.
Oui, du New York Times ou du Wall Street Journal qui parlent de parents texans en colère, à côté de photos de familles de victimes effondrées devant les croix érigées dans le cimetière d'Uvalde. Le Washington Post rappelle que cette polémique n'est pas une première. Lors du massacre dans le club d'Orlando en 2016, la police avait été critiquée pour avoir attendu des heures avant de rentrer dans le bâtiment et attaquer le tireur. Et après le massacre de l'école de Parkland en 2018, le responsable des forces de sécurité avait été inculpé, entre autres, pour négligence envers des enfants, écrit The Hill. Depuis le massacre de Columbine en 1999, rapporte le New York Times, les officiers sont entraînés pour mettre hors d'état de nuire aussi vite que possible un tireur sans attendre un groupe tactique ou de l'équipement. Pour autant, explique un ancien commandant d'une équipe d'intervention, aujourd'hui formateur, si faire intervenir la police, cela veut dire de nouveaux blessés, cela devient compliqué, vous ne voulez pas de nouveaux blessés.
Outre la polémique, Christophe, la presse s'intéresse aussi toujours à la législation sur le contrôle des armes avec cette question, comment la faire évoluer?
Un groupe de sénateurs des deux bords s'est réuni hier au Capitole pour discuter d'une possible réforme, écrit Politico. Selon le démocrate Richard Blumenthal, une négociation serait possible sur les vérifications avant achat d'armes et la confiscation des armes d'un individu s'il constitue une menace. D'éventuelles avancées modestes, juge le New York Times, qui rappelle que ce jeudi, les sénateurs républicains ont déjà bloqué un projet de loi démocrate destiné à combattre plus efficacement le terrorisme domestique. Mais si le Congrès n'agit pas sur la question des armes, les États le peuvent, estime le Boston Globe, soulignant que la violence liée aux armes est beaucoup moins importante dans les États qui ont des législations fortes les concernant. Et il faut agir vite, prévient le journal, car la Cour suprême a déjà indiqué qu'elle comptait d'ici cet été considérablement affaiblir la capacité des États à contrôler le port d'armes des Américains en dehors de leur maison.
Au Brésil, après l'opération policière qui a fait 26 morts mardi dans une favela à Rio, une vidéo aujourd'hui fait polémique. Ils vont le tuer, s'indigne ceux qui filment ce nouveau scandale de violence policière, Christophe. C'est partout à la une.
Oui, de nouvelles scènes effroyables d'abus de la part des forces de sécurité publique, écrit le site du groupe de presse Globo. dans l'est du pays, à Sergipe, où, rappelle Correio Brasiliense, la létalité policière est la troisième plus élevée du Brésil. Un homme noir a été tué par asphyxie après avoir été mis par la police fédérale dans le coffre d'une voiture dont s'échappait du gaz, comme le montrent des vidéos très partagées depuis par les réseaux sociaux. Dans Odia, la femme de la victime parle d'un crime et d'une police qui se sent légitimée par le président de la République, qui a été le premier à féliciter les policiers pour leur comportement lors de l'opération dans la favela de Villa Crucero, qui a fait 26 morts. Dans O Globo, la journaliste Flavia Oliveira affirme que la politique de sécurité du gouvernement de l'État de Rio de Janeiro est fondée sur l'extermination des jeunes noirs résidant dans les favelas, qu'ils soient liés ou non à la vente de drogue.
Enfin, on termine, Christophe, avec la disparition d'un Goodfella.
Really funny. Really funny. What do you mean I'm funny?
Voilà, celui que l'on entend rire, c'est l'acteur Ray Liotta, inoubliable interprète d'Henry Hill dans Goodfellas, Les Affranchis, en français de Scorsese. Je me souviens de tout, de chaque scène. Ce film a eu un impact énorme sur moi, disait-il, Christophe.
Un type bien, qui a joué beaucoup de sales types, écrit le Hollywood Reporter en hommage à cet acteur intense du New Jersey. Ray Liotta est mort dans son sommeil en République dominicaine alors qu'il tournait un nouveau film. Les hommages sont nombreux, Deadline les a réunis, entre autres celui de Lauren Bracco, sa partenaire des Affranchis, qui écrit « On me demande toujours ce que j'ai préféré lorsque j'ai fait ce film. Ma réponse a toujours été la même, Ray Liotta. »
Qui est décédé donc à l'âge de 67 ans. Christophe Pagé, merci.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec Odana Jiali, bonjour.
Bonjour Michael.
Et à la une des inondations historiques dans la vallée du Maroni en Guyane.
Le département connaît des pluies records depuis le début de l'année. Résultat, les fleuves sortent de leur lit. C'est le cas du Maroni à la frontière avec le Suriname, une vallée où se trouve la commune de Grand Senti, accessible uniquement en pirogue ou en hélicoptère. Alors les habitants, les pieds dans l'eau, manquent de tout, d'eau, de riz. Si la préfecture de Guyane a finalement envoyé de l'aide en début de semaine, le maire de Grand Senti déplore le manque de réactivité des autorités, notamment de la collectivité territoriale. Félix Dada est joint par Jocelyne Elgouache.
On s'organise avec nos moyens, mais j'ai fait un constat. La collectivité majeure de la Guyane, je ne comprends pas leur réaction et assez souvent, je ne comprends pas leur réponse. Quand il y a un problème sur le Haut-Maroni, je ne sais pas quelle est leur considération pour cette partie du territoire, en fait. Parce que 8 jours plus tard, on parle avec des élus de la CTG. Moi aussi, je suis élu de la CTG. On envoie des courriers, mais on ne voit pas les réponses au fait qu'ils vont avec ce qu'on demande. Et j'ai l'impression que ce qui se passe sur le fleuve n'est pas vraiment pris en considération.
Félix Dada, le maire de Grand Senti. Record de pluviométrie en Guyane, donc, et sécheresse en Martinique. Conséquence, les habitants de Fort-de-France subissent régulièrement des coupures d'eau, plus ou moins aléatoires. Se laver, cuisiner, travailler, tout devient compliqué en ce moment. Aurélie Treuil a recueilli le témoignage de Foyalet, installé quartier Cluny.
On a été impacté parce qu'en fait, on a besoin d'eau pour pouvoir fabriquer le pain. Parce que lorsqu'il n'y a pas d'eau, le pain est beaucoup plus sec. On est embêté et au niveau de la vente aussi, on a besoin d'eau pour le nettoyage.
Votre mari gère un pressing. Vous êtes particulièrement impacté par ces coupures, hein ?
Tout à fait. Parce qu'effectivement, nous avons des coupures d'eau intempestives. Des fois, ça arrive qu'ils nous préviennent, mais sauf que depuis un moment, même s'ils vous préviennent, vous avez un calendrier, on constate que ce n'est pas cela. Ils coupent à n'importe quel moment. Maintenant, on se rend compte, nuit comme journée, il n'y a pas d'eau. Et c'est vrai que par rapport à l'activité de mon mari, ce n'est pas évident.
Je prends le cas d'hier, il y a eu une coupure au mauvais moment. Si au moment où mon épouse se préparait pour aller faire des courses, ben, voici la situation. En espérant qu'à l'avenir, les choses aillent beaucoup mieux, parce que c'est quand même préoccupant pour la population régulièrement d'avoir des coupures d'eau.
Des propos recueillis par Aurélie Treuil de Martinique la Première. Et puis la Guadeloupe commémore aujourd'hui le 174e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Abolition devenue effective le 27 mai 1848, après la publication du décret d'émancipation. Et après 2 ans de pause forcée pour cause de crise sanitaire, de nombreuses cérémonies sont organisées dans tout l'archipel, Michael.
Merci beaucoup, Odana Jiali. Ainsi se referme ce rendez-vous d'Haïti et des Amériques. Le dernier de la semaine, il était réalisé par Hélène Avril. Passez à tous un très bon week-end. On se retrouve lundi pour une nouvelle semaine d'actualité du côté des Amériques. Tout est à retrouver évidemment sur RFI.fr d'ici là.